Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde, vous avez sûrement vu cette image qui a vraiment fait le tour du monde. On voit la journaliste vedette de CNN International qui s'appelle Christiane Amanpour et elle est installée devant une chaise vide. C'est quand même assez particulier parce qu'on parle beaucoup de cette entrevue qui n'a pas eu lieu. Donc, Christiane Amanpour, vraiment journaliste vedette de CNN International devant une chaise vide. Pourquoi est-elle vide, cette chaise? C'est que Christiane Amanpour est à New York où se déroulent en ce moment des réunions extrêmement importantes des Nations Unies et le président iranien était là, évidemment, pour participer à ces réunions-là. Donc, elle voulait faire une entrevue avec le président iranien. Donc, elle attend qu'il se présente pour l'entrevue. Puis là, ça fait une demi-heure qu'elle attend, puis il se pointe pas. Il y a un aide, un assistant du président iranien qui vient la voir en lui disant « Madame Amanpour, pour l'entrevue, il faut que vous mettiez un voile islamique sur les cheveux pour cacher donc vos cheveux qui sont considérés comme dangereux et pernicieux et séducteurs. » Donc, elle a dit « Ben non. » On est à New York ici. Le voile n'est pas obligatoire à New York. C'est pas dans la culture, c'est pas dans la tradition new-yorkaise. On est dans un pays libre. Il est hors de question que je porte un voile. Ils ont dit, ben l'entrevue ne se fera pas. Donc, cette image de cette femme qui se tient debout, les cheveux au vent, d'une certaine façon, les cheveux libres, qui se tient debout et qui est donc devant une chaise vide, pour moi, c'est un symbole vraiment d'un gros doigt d'honneur au patriarcat de cette dictature, dictature théologique en Iran. Et je veux juste poser une question, parce que bon, je m'intéresse à la culture, je m'intéresse aux médias. Vous savez qu'on a, depuis quelques mois maintenant, du côté de CBC, donc le pendant anglais de Radio-Canada, une lectrice des nouvelles, en fait, une chef d'antenne, l'équivalent de, si vous voulez, de Sophie Thibault ou de Céline Galipo, qui porte le voile. Elle s'appelle Ginella Massa et elle porte le voile et on nous a présenté ça à l'époque en nous disant, ben écoutez, c'est vraiment un signe d'ouverture de la part de CBC, c'est un signe de tolérance, c'est un signe de diversité. Je me demande comment se sentent les gens, les femmes en Iran, de savoir qu'il y a en ce moment même au Canada une chef d'antenne qui couvre, donc qui présente des reportages sur ces femmes courageuses en Iran qui brûlent leur voile et de savoir que c'est présenté au Canada, qui est un pays où le voile n'est pas obligatoire, par une présentatrice, une chef d'antenne qui porte le voile. Et surtout, est-ce que Ginella Massa va montrer sa solidarité avec Christiane Amanpour, qui travaille pour CNN et qui, elle, s'est tenue debout devant des dictateurs religieux. Je pose la question. En tout cas, quand j'ai vu cette image très forte de Christiane Amanpour devant une chaise vide, j'ai poussé un très admiratif. Ben, voyons donc.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Hier soir, pendant que tout le monde regardait le débat, moi, j'étais en train de regarder une autre forme de pièce de théâtre, une vraie pièce de théâtre, La Nuit des Rois, qui est présentée au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 15 octobre et qui va être présentée ensuite en tournée au Québec pendant le mois de novembre. Donc, La Nuit des Rois, une pièce de Shakespeare qui date du 17e siècle et c'est mise en scène par Frédéric Bélanger. C'est complètement rock'n'roll. Frédéric Bélanger est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Bélanger.
Bonjour Sophie.
Je dois vous remercier, vous m'avez fait passer deux des plus belles heures de l'année culturelle 2022. Ça danse, ça chante, on rit, on pleure, on est ému. Comment vous avez fait pour mettre au goût du jour une pièce qui date de 1602?
Ben, d'abord parce que j'ai voulu en faire une œuvre personnelle à la lecture. Quand Lorraine m'a proposé de monter La Nuit des Rois, je l'ai lu, puis j'ai fait « Ah, il y a quelque chose là-dedans qui me ressemble, il y a un message que j'ai envie de livrer par rapport à c'est quoi aimer, aimer quelqu'un, peu importe son sexe, son origine, aimer un garçon, aimer une fille, il y a quelque chose là-dedans qui était plus grand que nature. » Puis on avait envie avec toute l'équipe de, écoute, avec tout ce qu'on a traversé, la pandémie, la guerre, d'offrir et de partager le rire, l'amour, la liberté, la vérité. De donner ça au public pour voir comment ils peuvent recevoir ça. Puis j'ai été vraiment très bien entouré. Tu sais, il faut traduire Shakespeare. En anglais, c'est quelque chose, mais en français, essayer de se l'approprier. Puis j'ai eu un coup de cœur pour une autrice qui s'appelle Rebecca de Raspe. Puis elle et moi, ben on a travaillé à livrer le meilleur spectacle possible, la meilleure adaptation. Puis Rebecca, elle a écrit, elle a traduit, elle a adapté. C'est sa langue qui est sur scène. Puis j'ai voulu mettre ça à l'avant-plan du spectacle.
C'est ça, c'est qu'on n'a pas l'impression d'entendre un Shakespeare poussiéreux ou avec un langage ampoulé. On a l'impression que les personnages parlent comme ils parleraient, mettons, si on était au coin de Sainte-Catherine et Berry. Là, c'est vraiment très, très moderne. Je veux revenir sur ce que vous avez dit avant, que c'est une œuvre qui venait chercher quelque chose chez vous, parce que dans cette pièce-là qui a été écrite en 1602, il y a un personnage, une femme, qui s'habille en homme, qui tombe amoureuse d'un homme. L'homme pense que la femme qu'il y a devant lui, il pense que c'est un homme et tombe, lui, amoureux de cet homme, ne sachant pas que c'est une femme. On a l'impression que ça a été créé la semaine dernière, parce qu'on ne parle que de ça en ce moment. Les questions de genre, de sexe, d'identité, il était moderne, M. William.
Ben oui, complètement. C'est sûr qu'à l'époque, sur scène, il n'y avait que des garçons, hein, que oui. les filles étaient jouées par des garçons aussi. Fait que là, ça amenait un autre niveau de comédie, un second regard. Oui. Là, nous, ben aujourd'hui, tu sais, je pouvais pas avec faire jouer toute la description par des garçons. Ça, puis ça portait aussi les filles transportent quelque chose. Tu sais, mettons le dernier monologue de la pièce pour de vrai, la déclaration d'amour, c'est Orsino. C'est le duc Orsino qui l'a fait à Viola. Puis je vais dire, hey, pourquoi ce serait le duc Orsino? Pourquoi ce serait le garçon qui fait une déclaration d'amour? Je vais regarder Rebecca. Je vais dire, hey, tout ça là, c'est Viola qui va le dire, puis qui va prendre sur ses épaules tout le show, puis je trouve que ça apporte, c'est ça, cette espèce de...
Vous avez changé ça, donc vous
oui,
êtes
oui,
un,
complètement. Le
un
côté
monologue.
Contemporain, dire que, tu sais, il y a des super phrases que Rebecca a dit, quand elle dit, il faut regarder une femme à tous les âges de sa vie pour comprendre le réel sens de la beauté. Puis je fais, hey, ça, là, ça vient me chercher, je fais, c'est tellement vrai. Puis des fois, tu sais, Orsino, il dit des grossièretés comme les femmes manquent d'envergure parce qu'il manque... Il y a plus d'arguments. Il y a plus d'arguments. Pourtant, il dit ça à quelqu'un qui est une femme devant lui, mais qui est déguisé en homme. Ouais. Puis lui, il n'ose pas aimer. Il voit qu'il y a une complicité qui se développe avec cet homme-là qui est devant lui, qui le trouble, mais qui n'ose pas aller là parce que c'est un garçon. C'est pas là qu'il voulait aller. T'sais. Lui, ouais. Avec son statut de star, de vedette, il est censé marier la plus belle fille de l'île, la chicks de l'île, puis c'est là qu'il va aller. Puis malheureusement, ce personnage-là de Viola Cesario qui arrive, qui le trouble énormément.
Oui. Alors, c'est intéressant aussi parce que pour une pièce qui est écrite en 1602, il y a aussi un personnage qui, au début, on voit qu'il est amoureux d'une femme. Finalement, à la fin, vers la fin de la pièce, il y a un homme qui l'embrasse, puis là, il se dit, ah, ben finalement, c'est peut-être le fun de se faire embrasser par un garçon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Frédéric, à l'époque, en 1602, est-ce que les gens trouvaient ça choquant? Est-ce que cette espèce de jeu de flirt, les garçons qui embrassent des garçons et tout ça, est-ce que c'était avant-gardiste de la part de William Shakespeare?
Mais c'était complètement accepté par le... le public. Puis, tu sais, Shakespeare, ce qui est fascinant, c'est que dans la même salle, il réunissait le peuple, mais il y avait la monarchie, il y avait les bourgeois, puis tout le monde était là et réuni. Puis tout le monde acceptait que les femmes n'avaient pas le droit d'être sur scène. Roméo et Juliette, leur amour était là, mais c'était joué par deux garçons. Fait que cette convention-là était là. Puis là, dans la Nuit des Rois, on est dans une comédie en plus. Fait que quand je parle d'un second regard, d'un second degré qui apparaissait, les gens trouvaient ça doublement drôle parce qu'ils faisaient à ta minute, là, c'est une fille qui se déguise en garçon, mais en fait, elle redevient un garçon, elle redevient ce qu'il est réellement. Fait que j'ai l'impression que les gens adhéraient à... Quand on parle d'homosexualité, ça a toujours été là. Fait qu'il y avait cette liberté-là qui apparaissait sur scène qui devait être vraiment libératrice.
Mais en même temps, est-ce que c'est pas d'une tristesse inouïe de se dire, en 1602, le plus grand auteur britannique, ou en fait de langue anglaise, fait des pièces de théâtre où des garçons et tout ça jouent des filles, où il y a tous ces espèces de jeux de rôle, de jeux de genre, et en plus, on parle quand même de façon très ouverte de gars qui s'embrassent, puis de se dire que ben en 2022, il y a certains États aux États-Unis où il y a l'homosexualité même pas encore acceptée. On a l'impression qu'on avance par en arrière.
Ben oui, c'est un triste constat. Puis c'est pour ça que la pièce existe, puis comme tu as dit, elle est cruellement d'actualité. Parce que c'est ce que vit Orsino, tu sais, mais puis le personnage de Malvolio aussi. Est-ce que je transgresse ça? Je transgresse les codes? Je transgresse la case où est-ce qu'on veut que la société me voit? Là, à l'époque de Shakespeare, son grand talent aussi, c'est de pouvoir. Il écrivait pour. Même si c'était des hommes qui jouaient des femmes sur scène, il écrivait avec l'esprit d'une femme. C'est qui était Shakespeare? On ne sait toujours pas. Hein? Est-ce que c'était une autrice? Est-ce que c'était un auteur? On le sait,
ça plusieurs auteurs, oui.
Ce talent-là de pouvoir se mettre dans la peau d'une femme et de nous raconter intérieurement, un peu ce que Michel Tremblay fait avec Les Belles-Sœurs.
Tout à fait.
Michel Tremblay n'est
vous
pas
avez raison.
Une femme, mais il est capable de prendre la parole d'une femme. Fait que je pense que pour faire ça, il faut un grand talent de pouvoir se mettre dans la peau de l'autre.
Ouais. Alors, j'ai une question, parce qu'on a dit à quel point c'était moderne, à quel point c'était vraiment de la langue commune, une langue à laquelle on peut s'identifier. Pourquoi est-ce que vous demandez encore, en 2022, à des comédiens qui sont québécois de jouer avec un accent français? Ils ont un accent français qui est plus fort que mon accent français à moi. Frédéric, pourquoi?
Et pourtant, on a eu cette discussion-là sur la langue. C'est sûr que, mettons, Yves Jacques est plus pointu sur le français. François Simon aussi fait beaucoup de doublage. Mais sinon, c'est la langue de Rebecca. Si on l'entend là, dans certains personnages, le personnage d'Alex, le personnage de Thomas, on a tout déslaqué. On a enlevé
déslaqué.
Le normatif le plus possible.
Vous avez déslaqué. Mais quand même, il y a quand même beaucoup, là, je pense à Jean-Philippe Perra, qu'on voit dans des séries, là, il parle quand même avec un français, un petit accent comme ça, là, bon, viens Olivia. Il n'y a pas un petit peu, c'est pas un peu gênant, Frédéric? Puis c'est vraiment le seul bémol, j'ai adoré la pièce, mais écoutez, moi, je le sais, je me fais reprocher d'avoir un accent français, mais c'était rien. Je parle joual à côté d'eux.
Ouais, mais je l'entends bien, j'entends bien. Puis on a eu, on a quand même Adrien, c'est un français sur scène. Il y a quand même ça aussi. JP, Jean-Philippe, il y a. Tu sais, le texte, même si on dit qu'il est concret, c'est quand même une poésie qui est. Tu sais, les négations dans le texte de Rebecca sont là. Pour moi, c'est important. Elle a pas écrit. Le texte n'a pas été écrit comme Michel Tremblay.
Non, non.
Le texte n'a pas été. Fait que dans ce temps-là, il y a comme un soutien, il y a comme quelque chose d'un peu plus grand qui doit apparaître parce que cette langue-là que commandait l'autrice était très soutenue. Fait qu'on a dit, écoute, il faut que les nœuds soient là, il faut pas les élaguer. Il faut que c'est ça. Fait que c'est un monde imaginaire aussi. Tu sais, on voulait pas. J'entends bien. Puis on a beaucoup discuté tu sais, comme quand on monte un Molière, là, est-ce qu'on va le monter plus en québécois? Mais il y a comme quelque chose dans. Tu sais, en même temps, quand tu. Moi, je parle, je vous parle ou je parle, mettons, en entrevue ou je parle avec mes amis, tu sais, je parle pas en joual, je parle pas, mettons, comme.
Oui, mais c'est une question d'accent, pas une question de vocabulaire. Mais écoutez, c'est pas un gros reproche. C'est juste une question que je me suis posée tout le long.
Même que cette discussion-là est hyper importante.
Ben oui, elle est super importante. En tout cas, La Nuit des Rois de Shakespeare, écrite en 1602, mais vraiment remise au goût du jour avec des gars sur la scène qui ont des guitares électriques, Yves Jacques joue de la batterie. C'est hyper moderne. Il y a des projections vidéo, c'est magnifique. Jusqu'au 15 octobre au Théâtre du Nouveau Monde, puis après ça en tournée du 3 au 26 novembre. Donc, un petit peu partout au Québec, on va pouvoir le voir. Merci beaucoup, Frédéric Bélanger, comédien et metteur en scène.
Merci pour votre temps, c'est très apprécié.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
Alors Steve, t'as réagi comme beaucoup de gens à cette petite vidéo que Dominique Anglade a mise sur les médias sociaux où on la voit, elle est en train de se préparer à participer au débat des chefs hier soir. Voici ce que ça donne. Alors, alors elle est en train de danser, manifestement, dans une loge quelque part à Radio-Canada. Puis elle danse, puis elle fait comme elle essaye de faire une danse yo. Tu sais, elle essaye un peu d'être cool sur une chanson des Black Eyed Peas. Et quand on entend la ouh, ouh, ben c'est elle qui chante. Formidable ou ridicule, Steve?
Ah, j'aime pas ça faire ça, mais sincèrement, c'est même malaisant. Le mot qui m'est venu, c'était malaisant. Puis j'ai rien contre le fait là, de l'action. On en a parlé plus tôt cette semaine. Je veux dire, moi, Justin Trudeau entame la chansonnette, tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans ce cas-ci, il faut pas oublier la genèse de cette vidéo-là. En tout cas, c'est mon interprétation.
Vas-y.
La nouvelle Dominique Anglade, la nouvelle chef. On va voir Dominique, c'est plus cool maintenant, renouveler tout ça. Puis ta couche de ça, c'est du domaine de la vidéo de Stéphane Dion, ça là. La caméra qui monte et tout ça, je veux dire, c'est malaisant à ce point-là pour moi.
Ouais. Alors, c'est un petit peu comme le Coke 2.0, là. C'était le nouveau Coke. Et puis, ben, finalement, il a dû être retiré des tablettes parce que personne l'aimait. Donc, vaste campagne de marketing. Mais en même temps, j'ai l'impression que les chefs, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus sur quel pied danser, c'est le cas de le dire, pour aller chercher un électorat plus jeune. Tu sais, quand t'as un Gabriel Nadeau-Dubois, un Paul Saint-Pierre Plamondon devant toi, des petites jeunesses, ben, c'est sûr que tu te fais aller le popotin en disant, ben là, si je peux aller chercher le vote d'une couple de moins de 34 ans, de 18-34 ans, ça va faire la job.
Ben, tu sais, la vidéo de Gabriel Nadeau-Dubois, où on le voit avec fruits et légumes, là, je me souviens plus trop, puis moi, j'ai vu des gens qui ont fait des mèmes avec ça, fardoche. Tu sais, je veux dire, c'est difficile de se mettre en scène quand t'es un politicien, puis il faut que t'aies un certain swag, que c'est pas tous les politiciens, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Puis là-dessus, c'est comme si on avait essayé de le créer. Dans le cas de Dominique Anglade, on a voulu comme le forcer. Puis je sais pas, je me suis demandé, les gens qui ont mis ça en ligne, admettons que c'est Dominique Anglade elle-même, puis que c'est une initiative totalement personnelle sur son compte. Je doute que ce soit ça. Je suis à peu près certain que c'est pas ça. Refaites-la un peu, écoutez-la, ça se peut pas. Mais là, tu mets ça en ligne, puis j'ai même entendu là la très sérieuse et très compétente Chantal Hébert, je trouve, qui a commenté cette vidéo-là, puis qui disait, mais c'est ouais, c'est ordinaire, mais elle, c'est du point de vue même du positionnement politique, comment on a fait, mais c'est malaisant. Et dans ce cas-là, ben, si j'avais été Dominique Anglade, tant qu'à faire ça, j'aurais fait ça dans un autre setting complètement que d'envoyer ça avant le débat des... Parce que ça a été envoyé, d'après moi, tout juste avant le débat des chefs, comme tu le dis, dans la loge, on se prépare. Mais je ne sais pas, ça y ajoute moi je trouve que je me serais présenté ensuite sur la tribune, puis je ne sais pas, là, il y a quelque chose là-dedans qui n'aurait pas marché. Puis on ne réussira pas à faire passer cette politicienne-là pour plus que qu'est-ce que son parti est. Puis ce que j'ai pensé.
Qu'est-ce que
là,
tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Steve?
Ben, parce que je trouve qu'on fait porter beaucoup trop sur Dominique Anglade l'état du parti qu'elle mène présentement. Et en ce moment, c'est elle la figure publique de la dérive d'un parti qui a été jeté à terre par des gens avant elle. Et j'ai nommé Philippe Couillard et Jean Charest. Elle est arrivée par après. Elle est arrivée dans un parti qui était divisé. Elle a pris la tête d'un parti qui aurait dû être mené par André Fortin, parce que les membres auraient voulu que ce soit André Fortin, mais il s'est désisté, le député de l'Outaouais, libéral, le dernier, hein, dans ce coin-ci. Et c'est ça qui s'est passé. Je trouve que Dominique Anglade, on la place dans une position où elle veut se réinventer, puis elle fait des trucs comme ça, alors que c'est probablement, la cause est probablement, pour moi, en tout cas, là, irrécupérable. On ne va pas changer l'image du Parti libéral et pas avec Dominique Anglade. Et je trouve que ça fait un petit peu pitié qu'elle se mette en scène comme ça pour une cause qui est manifestement perdue et dont elle n'est pas la cause, en tout cas, là.
Ouais, mais en même temps, quand la campagne a commencé, chaque parti s'est vraiment positionné. Puis elle, sur les affiches, c'est marqué Dominique. En gros, on a l'impression que qu'on vote même pas pour le Parti libéral, qu'on vote pour Dominique. Alors, le fait d'utiliser son prénom de façon vraiment ostentatoire, le fait de personnaliser le parti vraiment, donc c'est elle-même s'est mis ça sur les épaules. Alors, après, si ça se passe bien, évidemment, les gens vont dire que c'était une équipe. Si ça se passe mal, les gens vont dire que c'est de sa faute à elle. Mais dès le départ, ils ont positionné ça comme étant... Tu sais, quand on parle en termes d'image, c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment, ben, l'image, ils l'ont personnalisée, c'est Dominique. Puis là, quand ils nous disent c'est la nouvelle Dominique, c'est parce que la semaine dernière, ça s'est mal passé, puis que les gens l'ont trouvée abrasive, qu'elle interrompait. Alors, il faut la rendre sympathique. C'est aussi simple que ça.
Je suis content que tu parles de ça parce que le positionnement sur les images politiques, c'est très important, tout comme le sont les slogans, on en a parlé. Mais dans ce cas-ci, même si on a essayé de faire... C'est comme tu disais, c'est Coke 2.0, Dominique 2.0 à l'intérieur de trois semaines de campagne, on est déjà en train de repositionner. Ça ne va rien changer. Et c'est ça qui est un peu dommage. Moi, je pense que dans cette campagne-là, tu parlais de Gabriel Nadeau-Dubois puis Paul Saint-Pierre Plamondon. Ce que j'ai retenu du débat d'hier, et j'ai fait ce que je t'avais dit l'autre fois, je l'ai écouté à moitié avec l'image, à moitié à la radio. C'est intéressant de faire ça. Ce qui va se passer, là, et si tout à coup on avait redécouvert les vertus du contenu dans une campagne électorale, parce que ces deux jeunes-là sont en train de nous remettre les yeux devant les trous, et tout à coup, quand tu arrives bien préparé avec un message clair, concis, qu'on est capable de livrer, que les gens vont comprendre calmement, ben c'est drôle, hein? Mais c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, et un peu hier, ça a moins bien été pour Gabriel Nadeau-Dubois, mais c'est ça qu'on est en train de voir. Mais tout le monde a apprécié la formule d'hier, puis de voir qu'on avait du contenu et tout ça. Mais cependant, j'ai vu des critiques de gens qui disaient, ben, est-ce que c'est vraiment nécessaire, par exemple, qu'Éric Duhaime regarde directement dans la caméra comme ça, ou Dominique Anglade aussi le fait à quelques reprises.
Mais je veux revenir.
En gros, c'était le contenu.
Ouais, je vais revenir sur Dominique Anglade elle-même et sa clip, parce qu'on va parler plus loin, plus tard, avec d'autres personnes du débat. Tu m'as lancé cette idée-là en me disant, est-ce qu'on la juge plus durement parce que c'est une femme, donc non, pas vraiment. Ça aurait été, mettons, je sais pas, un Éric Duhaime qui danse avec son pitbull, ça aurait été la même chose? Rapidement.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis quand un politicien se plante, qu'il soit un homme ou une femme avec une vidéo politique, j'ai évoqué celle de Stéphane Dion. On était au balbutiement des réseaux sociaux à ce moment-là et un chef qui décide de faire une vidéo, c'était tellement ridicule, il s'est fait crucifier par cette vidéo-là. Et quand c'est réussi, les gens vont aussi encenser. On a parlé, moi je te l'ai déjà dit, la vidéo de Jack Meeting sur la longboard, le swag là, c'est ça c'est bien fait, ça c'est réussi. Puis l'équipe de Jack Layton avait réussi à mettre en scène Jack Layton dans des situations où il était à son avantage et on le faisait bien. Ça peut réussir, mais dans le cas de Dominique Anglade, elle s'est plantée, puis on n'est pas plus dur avec elle parce que c'est Dominique Anglade. Moi je suis dur avec elle parce que je regarde ça puis je me dis, son équipe n'aurait pas dû mettre ça en ligne, puis
on est d'accord.
Je sais pas si ça va l'aider.
On est d'accord, tout à fait. Et, ben, je sais pas, moi, je danse comme un pied, là, vraiment. Je danse comme un pied, je chante comme une casserole. Ben, ça me viendrait pas à l'idée de me filmer en faisant les deux en même temps. Donc, à bon entendeur, salut. Merci, Steve Fortin.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
C'est tout en anglais.
Sophie Durocher.
C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
Le Québécois moyen était
Guy Nantel.
Quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. »
La rencontre.
Cet asservissement, cette servitude volontaire.
C'est quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? »
La rencontre, Nantel, Durocher.
Guy Nantel, je sais que tu as regardé le deuxième débat hier soir sur les ondes de Radio-Canada. Moi, j'étais dans une salle de théâtre, je regardais du Shakespeare, puis je me disais, un débat, finalement, c'est comme une pièce de théâtre. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment de metteur en scène, mais les comédiens, des fois, ils sont bons, des fois, ils sont pas très bons.
Oh, ben là, tu peux pas me faire plus plaisir de commencer comme ça, parce que, franchement, t'as rien manqué. C'était plate. Écoute, c'est écrit là, devant moi. J'ai écrit genre 17 lettres A avec des T et des E. Christy, c'était plate. Sérieusement, là, autant tu te souviens la dernière fois où c'était parlé du débat de TVA, puis oui, c'était cacophonique parfois, mais tu sais, il y avait eu plein de formules choc, puis de débats, de combats oratoires. Écoute, il se passait rien. Ça me faisait penser, c'est-tu à quoi un combat de boxe là, qu'on te promet le championnat du monde, puis il va se passer de quoi, puis finalement, ben c'est comme tout le monde a peur d'attaquer. Fait que c'est des petits jabs, là, une petite jab pour éloigner l'autre, mais tu sens que comme il se passait rien. Écoute, c'est une pluie de d'insipidité. Je trouvais qu'il parlait pas au monde. T'sais, le plus proche d'une formule choc qu'on a eue, c'est Legault qui a dit à Gabriel Nadeau-Dubois, vous vivez au pays des merveilles.
Ouais.
Oh, ouais, t'sais, écoute, franchement, il se passait vraiment rien.
Oui, puis l'autre a répondu en disant, ben, vous avez sorti les décorations d'Halloween. C'était un peu maladroit parce que, bon, ben, toi, évidemment, c'est ton métier, mais ça prend une ligne, un punch. Il aurait fallu qu'ils disent, ben, vous faites peur au monde. T'sais, je veux dire, je sais pas, vous vivez au pays de Frankenstein. Ou, t'sais, ça aurait pris une réplique plus du tac au tac, parce qu'il y a plein de gens que je vois ça passer qui disent « Mais qu'est-ce qu'ils voulaient dire quand ils disaient les affaires de la décoration de l'Halloween? Pis... »
Les formules n'étaient pas bonnes,
ouais.
Puis ils étaient mal écrites, puis en plus, ils étaient comme apprises par cœur. Là, tu sentais, ouais, que ça manquait de spontanéité. Ils parlaient pas au vrai monde comme la première fois. Là, toutes des espèces de « Vous avez fait un déficit d'investissement de revenus de l'État lié à l'inflation. On a investi 38% de surplus dans les deux premiers trimestres. » Écoute, le monde n'a rien à cirer de ces affaires-là. Là, tu sais, je veux dire, parle du concret. Non, mais c'est, je suis, oui, désolé, là, mais c'est un débat.
Mais
il,
oui,
faut que ça parle au monde. Là, ça va être une entrevue à 5. Tu sais, je veux bien éviter la cacophonie, mais à un moment donné, tu sais, écoute, c'est pas des farces, là. Des fois, il y en a un qui y attaquait l'autre, puis l'autre, il levait la main en regardant Patrice Roy pour comme poliment, il demandait est-ce que je peux répondre, tu sais. Puis en plus, Patrice Roy, des fois, il faisait ben, on y reviendra plus tard à ça, là. Puis, mais non, écoute, tout pour casser le show. Avec des vox pop interminables au début de chaque dossier qu'il faisait, là, tu sais, il parle d'inflation à un moment donné, fait que là, c'est plein de monde qui parle. Mais, ah, moi, je trouve que le beurre est rendu cher. Ah, moi, je trouve que c'est quand je mets du gaz dans mon char. Les,
ouais, carottes, mais attends,
là, c'est plus achetable.
Bon, ben, décide-toi, Guy Nantel. Décide-toi. Soit tu trouves que les politiciens, hier, au débat, ont pas assez parlé au vrai monde, soit tu trouves que quand on donne la parole au vrai monde, c'est pas intéressant. Branche-toi,
ben, parfait,
là.
Alors, tu me demandes de me décider. Ben, parfait, je vais me décider. C'est exactement le contraire qui aurait dû avoir lieu. C'est-à-dire que Radio-Canada, avec leurs experts et leurs journalistes, tout ça, là, eux autres, il faut qu'ils soient bien terre à terre, bien chiffrés. Eux autres, il faut qu'ils mettent la table au débat. Et après ça, c'est aux politiciens de s'adresser au monde. Mais là, c'était plus le contraire. C'était de la démagogie inversée. C'est Patrice Roy qui Il nomme du monde qu'on connaît pas. Là, là, je vais vous parler d'une professeure que j'ai rencontrée, là, Noémie Dumas, là. Noémie Dumas, là, elle m'a beaucoup touchée, Noémie Dumas. Il y en a comme trois fois, parce qu'elle pense quitter la profession, Madame Dumas. C'est quand même quelque chose. Ouais, mais ça nous dit rien, ça. Ça, là, c'est, tu veux juste nous montrer que tu es proche du monde, mais ça décrit pas le portrait général. Tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui va te dire quelque chose sur son métier, mais ça veut pas dire que c'est représentatif, tu sais. Fait que l'idée, c'est pas d'être proche ou pas proche du monde, mais à un moment donné, ça prend des journalistes sérieux qui mettent la table, puis après ça, des débats qui s'adressent au monde. Je trouve que la formule, oh, franchement, il y a personne qui a été... C'est profondément bon là, okay. Là-dedans, à cause de la formule.
Bon, alors moi, j'aime ça te parler avec avoir ton regard sur un débat, justement d'un point de vue de quelqu'un qui sait comment placer une ligne, comment la rendre et le sens de la répartie. Quant à un Gabriel Nadeau-Dubois qui dit si le privé en santé, ça marchait, on le saurait. Mm-hmm. Et du tac au tac, t'as Éric Duhaime qui lui répond si le socialisme fonctionnait en matière de santé, on le saurait. Je m'excuse. C'est peut-être des lignes qui étaient écrites à l'avance.
Non, c'est la meilleure réplique de la soirée.
Bon,
ça, je
on est
je
d'accord.
L'écris dans mon,
okay.
Devant moi. Vraiment, meilleure réplique de la soirée. Je trouve que ça a été ça, encore une fois. Mais ça a été la seule. Hein. Éric Duhaime n'a pas été très bon dans ce débat-là. Je trouve qu'il n'y a personne là, qui est vraiment ressorti, mais lui, je trouve qu'il est ressorti à l'envers. La dernière fois, je l'avais trouvé beaucoup plus fluide, si on veut, plus confortable. Je trouvais qu'il avait l'air des fois d'un chevreuil qui voit un char qui s'en vient vers lui là, puis qui a de la misère à suivre la circulation. Paul était bon, là, Saint-Pierre Plamondon, mais là, il y a comme un petit buzz autour de Paul parce qu'il y a comme une forme de sympathie parce que bon, les gens le découvrent, les journalistes qu'on dirait autant que tu sais, moi, je le connais. J'ai fait trois débats contre Paul. Je sais qu'il est compétent. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, là, il y a beaucoup de bons commentaires qui tournent autour du fait que, bon, il est gentil puis il coupe pas la parole, mais...
Moi, mais le contenu. Bien, oui, c'est ben, le contenu non, qui est important.
Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de contenu, mais je dis juste que... Tu sais, c'est un peu comme François Legault. Il a comme occupé, au niveau du casting, il a occupé le bon mononcle qu'on a tous dans la famille à un moment donné. Ben Paul Saint-Pierre Plamondon, il est un peu comme le cousin gentil, le bon gendre, si on veut, le bon gendre, là, que tu sais, il est cute, puis il parle pas trop fort, puis il laisse parler les gens. C'est le fun, mais en même temps, tu sais, pour un débat, moi, je trouve que ça, il faut être un petit peu plus. En tout cas, il n'y a pas eu de grandes idées révolutionnaires, là. Tu sais, des fois, les gens en parlent là, comme s'il avait dit des choses vraiment fantastiques. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Il n'était pas le contraire non plus, là, mais bon, c'est ça, tu sais.
Mais...
C'était beaucoup par sympathie. Dominique Andelade était moins mauvaise, tu sais, plus focus, plus d'assurance, mais en même temps, tu sais, Dominique Andelade a quelque chose de bien agaçant, ceci, c'est que. Il y a beaucoup le moi. Fait que dossier immigration, moi, je viens d'une famille, là, deux immigrants, puis là, elle me passe ses affaires. Après ça, dossier éducation, j'élève deux ados, puis en plus, j'ai été élevé par deux professeurs, puis dossier santé, ma mère a souffert de maladie mentale. Puis ça marche une fois dans un débat, mais il faut pas qu'à chaque fois qu'il y a un dossier, tu veux montrer que toi, t'es tellement proche de la situation que... Bon, puis sinon, François Legault, moins stressé, un petit peu plus à l'attaque, mais encore une fois, c'est un succès qui est relatif par rapport au dernier débat, il était meilleur, mais j'ai pas trouvé que personne a lâché rien de particulier, Gabriel Nadeau-Dubois non plus.
Mais justement, revenons sur Gabriel Nadeau-Dubois. Toi, sur les ondes de Cube Radio, tu nous as fait toute une analyse du programme, justement, d'aller chercher dans les petits recoins aussi du programme de Québec solidaire pour montrer des mesures plus extrêmes. Tu l'as fait également à l'émission Le Monde à l'envers vendredi dernier. Quand tu vois justement qu'il y a un François Legault qui essaye de coincer Gabriel Nadeau-Dubois justement sur son programme, puis que tu as l'autre qui lève les yeux au ciel en disant non, c'est pas ça. Tu devais quand même être fier de ton François Legault, là.
Oui, mais je trouvais qu'il sortait pas les bonnes affaires. C'est très difficile de l'exprimer correctement, mais je trouve qu'une question de, excuse l'anglicisme, là, mais de timing, du tac au tac et d'être capable à un moment donné d'interrompre quelqu'un et de dire, là, un instant, c'est pas ça pantoute qui est écrit dans votre programme, puis là, on va mettre une chose au clair, mais c'est sûr que si tout le monde lève la main, je peux-tu avoir le droit de parole, puis c'était vraiment, là, je te dis, ça avait rien à voir avec le débat de TVA, là, c'était vraiment un tour de table, puis maintenant, vous, qu'en dites-vous, Puis il y avait comme une surenchère. Écoute, on tombe en santé à un moment donné, là, je te le dis, là, tout ce qu'on a entendu dans cette partie du débat-là, là, de manière générale, là, pas juste Gabriel Nadeau-Dubois, tout le monde, là, mais on va régler les problèmes de santé mentale au Québec. Les psychologues vont être gratuits. Les dentistes vont être gratuits. On va éliminer l'urgence, l'attente dans les urgences. Mm-hmm. Tout le monde aura bientôt un médecin de famille. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'aidants naturels. Les soins à domicile, il est temps qu'on mette de l'argent là-dedans. Terminer le soin, le temps supplémentaire obligatoire le TSO. Pour les infirmières. Il faut augmenter le nombre d'infirmières dans les hôpitaux. Il faut avoir plus de médecins. Ah non, non, écoute, il faut encore mieux payer le personnel. Mais là, à un moment donné, voyons donc, s'il n'y a personne qui interrompt personne de dire, ouais, mais là,
on comment paye tu comment? Payes ça?
Comment oui. tu payes ça? Explique-nous comment tu finances ça. C'est pas un gros piège là, que de poser cette question-là à quelqu'un. Mais c'est parce que si quelqu'un en ligne t'enfile trois ou quatre promesses de même une après l'autre, ben avec moi, vous allez voir, les dentistes vont être gratuits, les psychologues vont être gratuits. Même en éducation, à un moment donné, Dominique Candelade se met à nous sortir ça. Là, ben avec nous, le Parti libéral, là, ben moi je vous le dis, là, on va payer les lunchs pour les enfants, puis les services de garde, et c'est pas normal que ce soit les parents qui payent ça. Puis les effets scolaires, ça c'était dans l'autre débat qui avait dit ça. Ben quoi encore, tu sais, moi je veux juste rappeler aux libéraux que la crise des carrés rouges, vous n'allez pas sortir une scène de plus si vous autres qui étiez au pouvoir. Tu sais, c'est pas une phrase assassine, mais quand même, tu confrontes un peu.
Donc, finalement, ce que je comprends, c'est que toi, t'aurais fait des meilleures lignes pour Dominique Anglade, des meilleures lignes pour François Legault, des meilleures lignes... Non, mais c'est vrai, c'est intéressant parce que t'es... Bon, bien sûr, t'es associé avec le Parti québécois puisque t'as été candidat à la chefferie, mais je pense que tes positions sont suffisamment... intelligente parce que dans le fond, on veut tous la même chose, on veut le bien du Québec, on veut que ça roule mieux au Québec. Donc, si tu avais été modérateur, peut-être que tu aurais pu aiguiller justement en posant ce genre de questions-là.
Ben, c'est sûr que le piège, c'est que moi, je serais peut-être pas un bon modérateur parce que je suis peut-être trop confronté.
Oui, t'es conflit d'intérêt.
Ouais. Dans le lancement de mon livre, je m'étais fait reprocher ça avec raison, mais tu sais, des fois, je me fais dire que je suis trop agressif en débat, mais si on veut un bon débat, ça prend de ça, tu sais. En immigration, Gabriel Nadeau-Dubois a dit à la fin, écoutez, nous, notre plan, il faut ouvrir les bras aux immigrants et leur donner la piqûre du Québec. Mais dans le Festival des phrases creuses, il mériterait un prix, mais je veux dire, dans un débat politique, là, je suis désolé, mais ça veut rien dire. Après ça, il nous sort la laïcité, la neutralité de l'État, c'est une valeur fondamentale en démocratie. Mais une femme qui veut porter un voile en travaillant dans la fonction publique, ça, il n'est pas question qu'on empêche ça. Mais tu viens de dire une chose, mais son contraire,
ben,
il y a personne qui intervient.
Ben oui, mais non, mais ça, tu me racontes ça parce que moi, je ne l'ai pas vu. Mais ça, c'est une aberration. Si j'étais en débat à la télé avec quelqu'un, puis quelqu'un me dirait ça, je dirais, ben, c'est parce que faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Tu peux pas avoir... C'est comme les gens, Guy, qui nous parlent de la laïcité ouverte. Ben, il y a une sorte de laïcité. C'est la séparation entre...
Ben, tu peux pas être végétarien puis manger un peu de viande. T'es végétarien ou tu l'es pas, puis... Moi, ça me dérange pas, là. Défends ta position si tu veux, puis dis, gars, moi,
mais
c'est ce que
cohérent.
Je veux, c'est de manger de la viande, mais dis pas, je suis un végétarien qui mange de la viande de temps en temps. C'est la même chose pour la laïcité. Mais, tu sais, Éric Duhaime, quand il parle d'immigration, ben lui aussi, là, il veut plaire de plus en plus aux immigrants. Puis, là, lui, il nous sort, il est temps qu'on cesse de parler de chiffres par rapport au seuil d'intégration. Ben, tu fais sur quoi? C'est quoi? Explique-nous, détaille-nous ça. C'est la nouvelle rhétorique là, des fédéraux à cette heure de dire ça. Faut arrêter, dans le monde à l'envers aussi, c'était ça la
mais
conversation
oui,
la semaine
passée.
C'est
pas
faut
bien,
arrêter de,
c'est pas
de
bien
lancer
parler
des
chiffres.
Chiffres comme
ben
ça.
Voyons, ben ouais, mais si j'avais été là, et monsieur, si j'avais été là, je te dis que j'aurais retourné mes manches, là, mais j'aurais retroussé mes manches. Mais non, mais c'est ça qui est ridicule. C'est que la raison pour laquelle on parle de chiffres, c'est qu'en ce moment, il y en a 50 000. Donc, c'est sûr qu'on parle de chiffres parce qu'il y en a qui disent qu'il faut qu'il y en ait plus, il y en a qui disent qu'il faut qu'il y en ait moins, puis il y en a qui disent c'est parfait comme c'est là. Je veux dire, c'est sûr qu'il faut parler de chiffres, là. C'est comme si tu me disais, on va parler de chimie, mais il ne faudrait surtout pas parler de la composition chimique des ingrédients. C'est de ça qu'on parle.
Ben, si tu ne parles pas de chiffres, eux autres, ce qu'ils disent, c'est non, il faut parler des humains.
Ouais.
Dominique Andelade, elle a dit, il faut arrêter de parler de menaces. Ben, c'est parce que on parle pas de menaces, mais on parle quand même de conséquences qui sont liées directement à l'immigration. Oui. Est-ce qu'on peut les nommer? Est-ce qu'on peut les chiffrer? Est-ce qu'on peut les calculer? Est-ce qu'on peut aussi se comparer aux chiffres
de l'OCDE
par rapport aux autres pays auxquels on se compare?
Absolument.
Et tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a plein de trucs comme ça qui n'étaient pas dits. Puis là, en plus, ça dit faut cesser d'enlever des droits aux anglophones.
Mais non,
oh, ouais.
C'est ridicule.
Oh,
hey,
ouais,
oui,
y a
c'est
personne
ça.
Qui lève la main et qui fait time out. Là, moi, j'aimerais ça que tu m'énommes là, les droits qu'on a retirés aux anglophones parce que c'est la minorité la mieux traitée sur la planète Terre. T'sais.
Ouais, Guy, merci beaucoup.
Oui, bon débat ce soir. Faut que tu t'ailles à l'émission de Stéphane Bureau. J'ai hâte d'écouter ça.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile
à vivre et à rêver. Bon, ben c'est lui qui chante, hein. Moi, je chante vraiment comme une casserole. Je voudrais pas détruire votre plaisir. Non?
C'est pas mal.
Vous trouvez pas Julien Clerc? Bonjour, Julien Clerc.
Bonjour. Non, c'était pas mal.
Oui. Ben, vous, écoutez, vous me donnerez des cours de chant en privé, Julien Clerc, pour améliorer ma voix de casserole. C'est un plaisir de vous parler. Vous êtes au Québec en tournée. On est très heureux de vous avoir avec nous, d'autant plus que la tournée s'intitule « Les jours heureux ». Moi, j'ai choisi de faire écouter la chanson « Utile » avec des paroles magnifiques d'Étienne Rodagile. Mais on a tous une chanson qu'on préfère de Julien Clerc. Et vous, vous êtes livré un peu à l'exercice inverse. Vous êtes allé choisir dans Gilbert Bécaud, Montand, Brel, Barbara, vos chansons préférées à vous. Donc, vous pouvez vous aussi être un fan.
Oh ben oui, et puis même, j'ai été fan depuis... toutes ces chansons, c'est mon ADN français. C'était tous les idoles de ma mère. Donc, je les ai entendues très petit, en fait. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'ils soient encore là quand j'ai commencé, quelques 20 ans plus tard, à chanter moi-même. Et évidemment que j'ai pu tous les rencontrer, les connaître, et apprendre beaucoup, apprendre beaucoup grâce à eux, parce que j'ai fait des premières parties, j'ai fait des duos, ce qui était très impressionnant quand je débutais, et que je faisais un premier duo avec Aznavour, alors que je chantais depuis quelques mois, par exemple. Donc, évidemment, à leur contact, tous ces gens qui sont, à mon sens, la génération dorée de la chanson française, m'ont montré le chemin, à moi et à quelques autres, d'ailleurs, de ma génération.
J'aime beaucoup le fait que vous disiez, Julien Clerc, que c'est la génération dorée. En même temps, est-ce que ça veut dire que les générations qui ont suivi, c'était la génération d'argent, la génération de bronze, puis après la génération de carton? Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va, que mettons, quelqu'un qui fait de la chanson aujourd'hui n'arrive pas à la cheville d'un Jacques Brel ou d'un Charles Trenet?
Mais ça, c'est pas à moi de le dire, évidemment.
C'est un piège que je vous tends.
C'est aux gens autorisés à le dire. Oui. Non, ce qu'on peut dire, en fait, je crois que cette génération-là, ils ont, si vous voulez, le paysage médiatique était différent. Nous, on a tous les gens de ma génération, on a un double ADN qui est l'ADN francophone, évidemment, mais aussi le rock'n'roll, en gros, si vous voulez, la pop musique américaine et anglaise.
Oui.
C'est pas que l'Amérique était absente de leurs racines à eux, parce que on peut dire que Trenet, il a révolutionné la chanson française en amenant le swing dedans. Ça s'appelait le swing à l'époque. Bon.
Ouais.
Et puis moi, je me souviens de Bécaud me disant que son idole secrète comme ça, c'était Sinatra.
Donc,
c'est pas que les Américains étaient absents ou que les anglophones étaient absents. Mais je crois que la musique américaine, le jazz, ça n'a pas été aussi révolutionnaire que le rock'n'roll. C'est-à-dire toutes les générations de tous les pays qui ont
qui ont suivi le rock'n'roll ont été marqués, j'ai envie de dire, au fer rouge.
Absolument. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison.
Vous voyez?
Oui.
Et donc, je pense que quand on est de la génération d'Aznavour, on peut avoir adoré, par exemple, Great American Songbook, avec ses musiques extraordinaires qu'il y a dedans, et de Gershwin et autres, et de Irving Berlin. Mais c'est pas la même chose que d'avoir été influencé par les Stones ou les Beatles.
Tout à fait.
À mon sens,
oui.
C'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis que cette chanson française-là, elle était, malgré des influences certainement, elle était très française. Nous, on a eu des influences non seulement anglo-saxonnes, mais aussi ouvertes sur le reste du monde tout d'un coup, le Brésil par exemple, la Bossa Nova.
Oui.
Et donc, ça fait que ça fait une chanson, certes, française, puisque moi je me suis battu toute ma vie pour essayer de mettre de la musique sur des mots français.
C'est
mais c'est moins chanson française que cette époque-là.
Oui, mais est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est plus difficile de mettre le français en musique que de mettre l'anglais en musique, vous pensez?
Oh, bah pas quand on est français. Moi j'ai du mal à comprendre les jeunes francophones qui écrivent en anglais. je suis peut-être ridicule, mais je pense que les anglophones sont morts de rire quand ils entendent ça.
Oui, oui. Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes francophones, on les nommera pas, qui chantent en anglais, puis chantent un petit peu comme des vaches espagnoles. Mais ça, c'est peut-être un autre... Hein? On est d'accord? On donnera pas de nom, mais à micro fermé, peut-être qu'on pourra en nommer quelques-uns qui chantent un peu n'importe comment. Oui.
Il y avait quelques années, il y a une émission, si jamais vous tombez dessus, regardez-le, ça s'appelle Bossa Nova, où il y a tous les grands de la Bossa Nova. Et il y en a un... c'est pas Vinicius de Moraes, ça doit être Carlos Jobim, qui dit « Je supplie tous les jeunes Brésiliens de chanter dans leur langue ».
Oui.
Bon, c'est un peu pareil, je trouve, pour la francophonie.
Oui. Voilà. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose, je suis la fan numéro un de Barbara à travers le monde. Vous reprenez une chanson de Barbara, mais vous avez déjà, évidemment, vous l'avez côtoyée, vous l'avez frôlée, vous l'avez fréquentée.
Oui, oui.
Alors, votre plus belle histoire... Vous me voyez venir avec un petit jeu de mots ici. Votre plus belle histoire avec Barbara?
Mais je ne peux pas vous la dire malheureusement, parce que c'est celle que je raconte en scène. Alors si je vous la dis, je vais complètement... mais effectivement, j'en raconte une belle en scène. Et enfin, la deuxième belle, on va dire.
D'accord.
C'était qu'une de mes premières télévisions, on m'a fait chanter avec elle, dans un duo. Et alors évidemment, j'étais très impressionné. Et en même temps, comme j'étais un très très grand fan, je suis peut-être le deuxième fan après vous, alors au monde.
D'accord.
Et que j'avais fait mes devoirs en l'écoutant. Je me souviens qu'on avait fait un petit duo comme ça, où on chantait chacun une chanson de l'autre. Et c'est en plus... Alors là, en plus, c'est moi qui étais au piano, alors j'étais beaucoup moins bon pianiste qu'elle.
Ouais.
Elle était accompagnée par son propre pianiste qui était juste derrière, qu'on ne voit pas à l'écran.
Monsieur Romanelli.
Romanelli jouait. Et elle a fait d'ailleurs dans ce petit duo-là une version de Ce n'est rien qui était drôle parce que c'était complètement bossa nova, c'était un battement qui n'avait rien à voir avec le battement original et c'était assez rigolo. Et donc ça, évidemment, c'est resté pour moi un très très beau souvenir parce que je crois que j'avais commencé par ma plus belle histoire d'amour. C'est vous sur lequel elle avait rebondi en se moquant un peu de moi, en me disant « c'est très chic de dire ça en public, etc. »
C'est absolument formidable. Écoutez, avant de faire l'entrevue avec vous, Julien Clerc, j'ai demandé à mon collègue Charlie Marchand, qui est réalisateur et metteur en ondes, je lui ai demandé s'il avait une question pour vous. Puis il m'a dit « Écoutez, je vais appeler ma famille en France, puisqu'il est français, notre ami Charlie. » Et donc, la famille de Charlie, qui contient mais vraiment vos plus grands fans à vous, veulent vous poser une question. Et la question est la suivante. Comment vous faites pour rester aussi beau au très jeune âge de 57 ans, Julien Clerc?
Vous êtes gentil.
Je pense que j'ai inversé les deux chiffres, mais bon.
Oui, vous avez inversé les deux chiffres, mais c'est les deux bons chiffres en tout cas.
Bon.
Non, mais écoutez, je sais pas. Je pense j'ai eu la chance de choisir un métier qui me convenait. quand j'étais très 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 jeune, et j'ai la chance de pouvoir continuer à le faire, ce métier, sans prendre ma retraite. Je me sens pas obligé de prendre ma retraite. Je pense que c'est déjà ça, c'est un grand atout. Et tant qu'on m'aura pas mis dehors, ma foi, je vais insister. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a donné ce petit don d'inventer des mélodies. Mais j'essaie de.
On a une expression au Québec quand un garçon trouve une fille très jolie, il dit qu'est-ce que tu mets sur tes toasts pour être belle de même. Donc, je pense que la question qu'on vous fait, Julien Clerc, c'est qu'est-ce que vous mettez sur vos tartines le matin pour être aussi fringant et aussi aussi craquant à votre âge.
Alors la réponse c'est peut-être que en fait je prends pas de petit déjeuner, je mange pas de tartines en fait.
Ah, c'est vrai, vous prenez pas de gluten, vous prenez les espèces de petites espèces de trucs qui ont l'air du carton là, les trucs de...
Oui.
Hein? Oui.
Oui.
Comment
c'est
ça
vrai,
s'appelle
même...
hein?
Oui, oui. Moi je mange du pain. Ah ben, alors c'est de la publicité. Moi je sais pas si je.
Allez-y,
peux
allez-y,
faire
allez-y.
Ah ben, ça s'appelle le pain des fleurs.
Voilà.
Je dis non, cela dit.
C'est ça. Ça
voilà.
Ressemble à du carton. Je trouve que ça goûte comme du carton. Mais si vous aimez ça, Julien Clerc, c'est votre préférence à vous. Vous avez tout à fait le droit. Vous êtes en spectacle. Donc, ben, les dates sont vraiment c'est toute une tournée jusqu'au 7 octobre.
Ouais,
et demain, vous allez être au théâtre Maisonneuve.
Ouais.
J'y serai et je pourrai entendre votre anecdote sur Barbara. Merci beaucoup, Julien Clerc. Ça a été un plaisir.
Merci. Au revoir.
Très agréable. Merci beaucoup. Donc, merci à Marianne Bessette, à la recherche, qui a été là toute la semaine. Et merci à Charlie. J'espère que je ne l'ai pas trop mis dans l'eau chaude. Je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup à Charlie donc, pour la mise en onde et la réalisation. Merci à vous d'avoir été là et on se revoit tout bientôt.
Cube Radio.